Études sur Cantique. Olivier et l'autre Laurent.
Je te connais, oh Jésus.
Chers frères en Christ, shalom à vous et nous sommes ravis de savoir que vous avez choisi cet instant pour nous suivre. Nous vous rappelons le principe de cette émission. Nous faisons le choix d'un chant, d'un cantique ou d'un hymne et nous vous le faisons écouter. Nous vous donnons lecture des paroles du chant. Et après, avec l'aide de notre bien-aimé Laurent, nous essayons de comprendre par les Saintes Écritures ce qui est dit dans la chanson. Et en ce jour, le chant que nous avons le plaisir d'étudier est l'œuvre du pasteur Daniel Cambou et a pour titre « Tout le monde m'abandonne ». Ce chant est inconnu, c'est vrai, de nos auditeurs. Et bien aimé en Christ, je vous invite dès à présent à écouter la chanson du jour de Daniel Cambou que je vous laisse à présent écouter lorsque tout m'abandonne.
M'abandonne, car je suis à toi. Chaque fruit m'accompagne. Ô Seigneur, soutiens-moi. Je n'ai besoin sur la terre qui puisse me soutenir. Sur toi seul, j'aime un regard, ô Seigneur, soutiens-moi. Comme un esclave, je veux être entre tes mains, souffrir dans ton service, c'est mon désir et ma joie. Je suis à toi. chacun fuit ma compagnie. Ô Seigneur, soutiens-moi. Je n'ai personne sur la terre qui puisse me soutenir. Sur toi seul, je me regarde. Ô Seigneur, soutiens-moi. Comme un esclave, je veux être entre tes mains. C'est mon désir et ma joie. Me livrer corps et âme pour te servir. C'est là que je trouve ma joie et tout mon bonheur. Lorsque je serai incompris, ô Seigneur, soutiens-moi, car je ne suis qu'un homme accessible à toutes faiblesses. Lorsque je serai compris, ô Seigneur, soutiens-moi, car je ne suis qu'un homme accessible à toute faiblesse.
Oui, si tu es incompris dans ce monde, sache que le Seigneur est celui qui te comprend. Même si dans ta faiblesse tu ne comprends pas, sache qu'il est mort pour toi. Sache qu'il n'y a pas de faiblesse qui ne peut vaincre pour toi. Sache qu'il n'y a pas de péché qui ne peut être pardonné si vraiment tu t'approches de lui et tu lui demandes pardon. Sache qu'il est là et qu'il te soutient. Il te soutiendra. Il a commencé à te soutenir et il te soutiendra jusqu'à la fin de ta vie. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia.
Voilà, c'est le chant que nous allons étudier dans l'émission de ce jour, Daniel Cambou. Alors, on va aller à la découverte des paroles de cette chanson avec l'hôte Laurent. L'hôte Laurent, bonsoir.
Oui, bonsoir Olivier.
Comment vas-tu?
Oui, ça va.
Ok, là, le chant à étudier, tout le monde m'abandonne. Mmh. Quelles sont ces paroles? Peux-tu les partager avec nos auditeurs?
Bien entendu. Alors, je commence. Tout le monde m'abandonne car je suis à toi. Chacun fut ma compagnie, ô Seigneur, soutiens-moi. Je n'ai personne sur la terre qui puisse me soutenir. Sur toi seul, j'ai mes regards, ô Seigneur, soutiens-moi. Comme un esclave, je veux être entre tes mains. Souffrir dans ton service, c'est mon désir et ma joie. Me livrer corps et âme pour te servir, c'est là que je trouve ma joie et aussi tout mon bonheur. Lorsque je serai incompris, ô Seigneur, soutiens-moi, car je ne suis qu'un homme accessible à toute faiblesse. Oui, si tu es incompris dans ce monde, sache que le Seigneur est celui qui te comprend. Même si dans ta faiblesse tu ne comprends pas, sache qu'il est mort pour toi. Sache qu'il n'y a pas de faiblesse qu'il ne peut vaincre pour toi. Sache qu'il n'y a pas de péché qu'il ne peut pardonner si vraiment tu t'approches de lui. Et tu lui demandes pardon, sache qu'il est là, qu'il te soutient, il te soutiendra. Il a commencé à te soutenir et il te soutiendra jusqu'à la fin de ta vie. Gloire à Jésus. Alléluia.
Très bien, merci pour les paroles qui sont présentées. Dans une de nos émissions précédentes, Laurent, tu as eu à nous présenter le pasteur Daniel Cambou. Oui. Et je retiens de par ta présentation qu'il est burkinabé et qu'il est également pasteur. Mais qu'est-ce qu'il est encore d'autre?
Bien, disons que il est responsable de l'université évangélico-unionien. Il est l'un des pionniers de la musique chrétienne en Afrique francophone. Il est formateur au sein d'une institution réseau transafricain de formation dans l'Ontario, au Canada. Voilà, donc, de par son parcours intellectuel, il a eu son bac en 78. Il a eu sa maîtrise en théologie en 89 et il a eu son doctorat, son PhD en 2006. Alors maintenant, si il faut faire un récapitulatif de sa vie, son père était un féticheur et son grand-père était le premier chrétien de leur village. D'accord? Et il a vécu avec son grand-père à la mort de ce dernier. Alors, comme il n'est plus sous l'autorité de son grand-père, il s'est éloigné parce que le grand-père l'assistait, l'aidait dans la foi chrétienne, il n'était pas converti à l'époque. Et avant qu'il ne meure, le grand-père l'a confié à un missionnaire américain. Donc là, il est allé à Gaoua, dans le sud-ouest du Burkina. Alors, il a découvert le monde, hein, comme font tous les jeunes, voilà, les plaisirs du monde et tout le reste. Mais le missionnaire est venu à sa recherche, hein, et puis il l'a trouvé, et il a convaincu d'aller au collège. Donc finalement, il est allé au collège, et un jour, il a suivi une projection de film, un film de Billy Graham qui parle du retour de Jésus. Donc, Il voulait fuir en réalité, en suivant le film. C'est ce qui se passe souvent quand vous écoutez la parole de Dieu. Juste au moment où l'Esprit de Dieu veut agir dans votre vie, c'est en ce moment que vous avez juste envie de ne plus écouter la parole de Dieu. D'accord? Donc il y a une voix qui lui disait, arrête et donne ta vie à Jésus. Une autre voix lui dit, si tu fais ça, tes amis se moqueront de toi. Donc finalement, il a obéi à la première voix et il a donné sa vie à Jésus au moment où le directeur de l'école demandait si dans l'assistance quelqu'un voudrait se convertir. Donc il a fait et il a dit qu'une paix qu'il n'a jamais ressentie l'a envahi et il a compris que Jésus est entré dans sa vie. Dès cet instant, pour lui, le monde ne compte plus et il est allé jusqu'à dire qu'il a même honte de son passé. D'accord ? Le 24 février 1974, il était en cas de quatrième quand il a eu son baptême d'eau. Donc à partir de là, sa croissance a été tout à fait normale et dynamique. C'est ce qui a fait de lui serviteur de Dieu qu'il est aujourd'hui.
Tout le monde m'abandonne car je suis à toi. Seigneur, soutiens-moi. Je n'ai personne sur la terre qui puisse me soutenir. Sur toi seul, j'ai mes regards. Ô Seigneur, soutiens-moi. Comme un esclave, je veux être entre tes mains, souffrir dans ton service, c'est mon désir et ma joie. Pour te servir, faiblesse. Lorsque je serai incompris, ô Seigneur, soutiens-moi. Car je ne suis qu'un homme, accessible à toute faiblesse.
Alors, l'autre Laurent, on va revenir à cette émission. Je veux que tu me donnes une précision. Mais de quoi parle-t-il dans la chanson? De quoi est-il question dans la chanson?
J'essaie de présenter la situation d'un chrétien qui a été abandonné par les siens. Quand je parle des siens, je veux parler de la famille, je veux parler des amis et tout le reste, en raison de son appartenance au Seigneur à travers sa conversion. Okay. C'est-à-dire parce qu'il était converti et qu'il appartenait au Seigneur, ceux qui naturellement devaient l'entourer l'ont abandonné. Et donc là, s'il faut maintenant s'appuyer sur le contexte, on sait que l'auteur de la chanson étant burkinabé, le Burkina Faso c'est un pays à dominance islamiste, d'accord? Donc là, il y a l'effet de l'islam et son père qui était un féticheur, donc là, le fétichisme est là. Son grand-père chrétien, premier chrétien converti. Donc vous voyez un peu dans cette ambiance-là, sa conversion va provoquer un repli des membres de sa famille, de ses amis. Et tout à l'heure même, dans sa biographie, au moment de sa conversion, il y a une voix qui lui disait, si tu te convertis, tes amis vont se moquer de toi. D'accord? Donc là, c'est le résumé de ce dont il est question dans la chanson.
Très bien. Mais est-ce étonnant de voir celui ou celle qui croit à Jésus être abandonné par ce dont tu as parlé?
Bon,
est-ce étonnant?
Non, c'est tout à fait normal.
Mais, ok, c'est normal. Très bien.
Okay. Le mal aujourd'hui, c'est que le Christ qu'on présente à ceux qui écoutent la parole de Dieu... je suis désolé, mais dans la plupart des cas, ce n'est pas le Christ de la Bible. C'est-à-dire, l'idée qu'on leur donne, c'est que quand Jésus vient dans ta vie, tout change. Du point de vue de, ok, si tu avais un vélo, tu auras un véhicule. Ça, ce n'est pas l'évangile du royaume, ça. Ça, c'est ce que nous appelons l'évangile de prospérité. Ce n'est pas ce que les apôtres ont prêché. Personne qui se réclame sous l'onction du Saint-Esprit n'a le droit de dire ça. Parce que c'est criminel et dangereux. Parce que si on crée une fausse illusion dans la pensée des gens, après, quand ils feront face à des difficultés, ils vont se dire que Christ les a trompés. Christ s'est joué d'eux. Alors qu'en réalité... Quand les disciples marchaient avec le Seigneur, il les avait mis en garde. Il leur a clairement dit, ce chemin que vous avez choisi là, ça va vous coûter d'être ostracisé, ça va vous coûter d'être rejeté. Matthieu chapitre 10, il dit ceci, là c'est au moment où il envoyait le premier lot de disciples là, mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux, ils vous battront de verges dans leur synagogue, vous serez à cause de moi, mené devant les gouverneurs, devant le roi, pour servir de témoignage à eux et aux païens. D'accord? Et quand on continue verset 22, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Non, si je prends Matthieu 24, il y a d'autres versets aussi qui nous donnent une idée de ce qui naturellement, normalement arrive à un véritable disciple de Christ. Matthieu 24, verset 9, « Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi, plusieurs succomberont. » Ici, maintenant, il veut parler des chrétiens. D'accord? « Plusieurs succomberont parmi les chrétiens, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres, parce que il y a dans la bergerie ce désordre-là. Qu'est-ce qui va arriver? Des gens vont commencer par se lever ça et là, réclamant être appelés de Dieu, être oint du Saint-Esprit, et vont commencer par dire des choses qui ne sont pas en rapport avec la parole de Dieu. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. D'accord? Donc quand tu mets tous ces versets ensemble, On comprend alors pourquoi dans le Nouveau Testament, Pierre et Jean ont été traduits devant le Sanhédrin, ils ont été interrogés, et en fin de compte, on les a battus de verges. D'accord ? Bien que ce soit des apôtres de Christ, ils ont été battus de verges. Les apôtres du temps contemporain, c'est juste des menaces, et déjà ils commencent par maudire les gens. Mais ceux-ci ont été battus, et ils étaient contents. Étienne a été aussi traduit devant le Sanhédrin, et pour lui, la fin de son parcours, c'est la mort. Il a été exécuté. Comme tout à l'heure, j'ai lu dans le verset, il a dit, on vous fera mourir. Donc cela est arrivé. Paul aussi a été traduit devant ses autorités. Souvent, c'est soit les autorités ecclésiastiques ou les autorités civiles. Pourquoi ? Parce que la nouvelle vie que Christ insuffle à l'âme convertie a une dimension qui échappe à la vie naturelle, normale, terrestre que nous avons. Donc, ce qui est charnel va s'opposer à ce qui est spirituel. Donc là, j'ouvre une parenthèse pour dire, lorsqu'un frère, un supposé frère en Christ, persécute un autre frère en Christ, c'est parce que le persécuteur a rétrogradé, il est charnel, parce que celui qui est spirituel ne persécute pas celui qui est spirituel, puisqu'ils ont la même nature. Mais celui qui est charnel va persécuter celui qui est spirituel. C'est ce qui arrive naturellement. Donc, quand quelqu'un se convertit et que dans sa famille, on commence pas à s'en prendre à lui, normalement, celui qui lui a prêché devait lui expliquer. Maintenant que tu as donné ta vie à Jésus, tu ne feras aucun mal, mais les gens s'en prendront à toi. Mais si vous ne lui dites pas, et que dans sa famille, on commence pas à le menacer, à un moment donné, il va se dire, quand je n'avais pas Christ, j'étais aimé, j'étais le chouchou de la famille. Maintenant, je me suis converti et puis il y a tout ça là. Prenez votre Christ, je retourne en famille. Donc, c'est l'évangile qu'on a présenté à la personne qui sera la base de cette rétrogradation. Donc, tu vois un peu. Donc, c'est tout à fait normal pour que quelqu'un qui est converti de passer par ces moments-là. Nous aussi, nous l'avons expérimenté à notre conversion. Et c'est biblique d'ailleurs. Nous continuons à souffrir de quoi? On nous prend comme les rebuts de ce monde. On nous dit des choses. Des gens disent des choses très amères. C'est leur réaction charnelle, sensuelle et terrestre. Donc là, ce n'est pas parce qu'on dit ces choses contre toi que tu vas commencer par maudire les gens. Non. Jésus a dit, on n'a pas le droit de maudire. Donc là, c'est normal qu'on passe par ces situations.
D'accord. Tout à l'heure, tu as expliqué tout le monde en répondant à la première question, et que c'est les siens, c'est les membres de sa famille, c'est ceux-là, voilà, voilà. Maintenant, peut-il arriver que des frères soient inclus dans ce tout le monde?
Oui, bien sûr. Bien sûr. Là, je vais prendre les frères d'un point de vue familial d'abord. D'accord? Matthieu chapitre 10, verset 21. Le frère livrera son frère à la mort. Et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Ça, c'est ce qui va arriver. Tu vois, chaque fois quand tu lis ça, là, tu te dis, ok, ça, ce n'est pas un homme normal, ça. Un homme normal ne s'en prend pas à son frère. Ne fait pas souffrir son frère, ne fait pas souffrir sa mère, parce que les deux sont sortis du même sein maternel. Maintenant, examinez autour de vous. Lorsque pour une raison ou pour une autre, en famille, quelqu'un peut aller jusqu'à dire, on ne se parlera plus jusqu'à ce qu'on voit le cercueil de notre mère, de nos parents. Ça, là, c'est le langage d'un candidat pour l'enfer, ça. D'accord? Donc, ça veut dire que son amertume s'est transmuée en haine. Il a de la haine contre son frère. Donc là, il est dit, le père va livrer, c'est anormal pour un père de livrer son enfant à la mort.
Mais ça arrive. Hein?
Souvent, quand la mort vient, le papa préfère prendre le devant pour que son enfant puisse avoir la vie. Mais Jésus a dit, ça va arriver. Et ça arrive un peu partout. Hein? Un peu partout. Aujourd'hui, même il y a des parents qui vendent leurs enfants.
Qui sacrifient leurs enfants.
Oh, non, vendent l'enfant. Il y a des gens qui vendent d'abord. Okay. Maintenant, pour ceux qui sont dans les sectes obscurs là, ils livrent leurs enfants directement ou indirectement. Directement en procédant au sacrifice humain, indirectement par des voies mystiques où on permet que l'enfant tombe malade d'un truc étrange là, meurt. Des gens livrent leurs femmes pour avoir des grades au sein de leur corporation mystérieuse, mystique, démoniaque et satanique. Donc ça, ces choses arrivent un peu partout dans le monde aujourd'hui. Et d'une manière ou d'une autre, on commence pas à s'habituer. Parce que le cœur des hommes devenant dur, les gens s'habituent. Tu vois aujourd'hui, quand par exemple quelqu'un est décédé, on va à l'enterrement. Observe bien. Tu vas voir que ça ne dit presque rien. C'est la famille éplorée qui va verser des larmes. Même ceux qui viennent saluer, ça ne leur dit rien du tout.
On vient faire acte de présence.
Oui, bien sûr. Et on appelle, ils ont commencé les salutations et on coupe juste pour aller saluer. Ça veut dire qu'il n'y a plus la compassion naturelle. Ces choses commencent à disparaître. Pourquoi? Parce que avec l'avènement de l'Antichrist, l'élément animal de l'homme sera mis en relief avec l'appui des démons. C'est en ce moment où les gens vont tuer leur prochain. Ça ne leur dira rien du tout parce que leur conscience sera cautérisée. Donc là, il y a les membres de la famille, il y a les amis, il y a aussi les autorités civiles et ecclésiastiques. Dans Jean chapitre 17, Jésus a dit, verset 8, « Je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues. » Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Ils ont cru que tu m'as envoyé. Verset 14, je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs. C'est ici qu'on vérifie la conversion. Si tu as reçu la parole de Christ en toi, et ça a provoqué la vie nouvelle, le monde va te haïr. Parce que l'esprit qui est dans le monde, qui est dans ceux qui n'ont pas reçu la parole, cet esprit sera en colère. Si tu demandes à un parent pourquoi tu t'en prends à ton fils, il ne peut pas expliquer pourquoi. Ce garçon te créait tous les problèmes possibles. Quelqu'un lui a prêché Christ, il s'est converti et il est devenu tout doux. Il est devenu obéissant, il est devenu soumis. Maintenant, pourquoi maintenant tu t'en prends à lui? Avant sa conversion, tu te plaignais. Maintenant, il s'est converti, tu deviens son bourreau. Il ne peut pas expliquer parce que l'esprit qui est en eux va agir sur son enfant. Et maintenant, comme quand la tentation vient, nos yeux spirituels ne sont pas ouverts, nous ne voyons pas ces effluves démoniaques-là qui sont injectés à notre pensée humaine. Nous pensons que c'est nous-mêmes qui réfléchissons de cette façon. Et donc, nous posons des actes qui contredisent la parole de Dieu. Et parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Donc, quand tu prends cette portion du verset-là et tu l'appliques aux églises aujourd'hui, là, tu vas te demander, est-ce qu'on a des chrétiens ou des païens modérés dans nos églises? Parce que Jésus dit, ils ne sont pas du monde. Ça dit quoi? Mes disciples ne sont pas du monde. Ils ne se laissent pas manipuler, phagocyter par les principes de vie du monde. Mais aujourd'hui, regardons dans nos églises. Et la question qu'il faut se poser, Jean chapitre 17, verset 14, il dit, ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Est-ce qu'aujourd'hui, un pasteur peut dire, Seigneur, tu vois l'église là que tu m'as donné à diriger, les membres de l'église ont écouté la parole de Dieu, ils sont convertis, ils ne sont pas du monde comme moi-même pasteur là, moi aussi je ne suis pas du monde. Qui peut dire ça aujourd'hui? Donc, il y a aussi les faux frères. Je crois que c'est à cela que tu voulais faire allusion. Oui, les faux frères, Paul les a appelés des faux frères parce qu'ils se sont fait passer pour des frères en Christ. Mais le fruit de leur vie, les actes posés, les ont trahis. Galates chapitre 2, verset 4, et cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Ces faux frères-là, c'était des juifs d'origine qui s'étaient convertis mais dont l'intelligence n'a pas été renouvelée. Donc, ils s'accrochaient toujours à la loi. Et pour eux, l'évangile prêché par Christ les dérangeait. Alors, ils ont fait semblant de faire corps avec les autres chrétiens. Et donc, là, tu vois, quand à un moment donné de notre vie, en tant que chrétiens, nous sommes amenés à glisser. Nous sommes amenés à nous dissimuler. Qui est-ce qui se dissimule? Le serpent. C'est le serpent qui se dissimule. C'est un animal qui naturellement se dissimule. Lorsque pour une raison ou pour une autre, tu dois te dissimuler, tu vois deux frères parler et tu te dissimules, tu fais semblant de passer à côté une fois, deux fois, juste pour capter une portion de leur conversation pour te dire, est-ce qu'on parle de moi? Chaque fois que quelque chose te poussera à te dissimuler, cette chose-là ne vient pas de Dieu. Donc là, ils sont venus et ils ont fait semblant d'être avec les frères. Mais ils avaient une intention, les asservir, en leur disant qu'ils doivent retourner à la loi de Moïse. Et qu'est-ce que Paul a dit? Nous ne leur cédâmes pas un instant. Et nous résistâmes à leurs exigences afin que la vérité de l'évangile fût maintenue parmi vous. C'est ça. Et lorsque quelqu'un enseigne une fausse doctrine, quelqu'un prêche un évangile qui est contraire, et quand tu, par la parole, tu expliques aux gens ce qu'on enseigne là, est faux, ça dérange certaines personnes, mais on va continuer à leur résister. Parce qu'au fur et à mesure que tu dis la vérité s'impose au mensonge. Et les gens finissent par découvrir l'esprit qui est derrière ces choses-là. Parce que tu ne peux pas te taire quand tu vois la maison de ton père en danger. Tu ne peux pas te taire quand l'œuvre de Dieu est en danger. Tu ne peux pas te taire lorsque un autre esprit se fait passer pour le Saint-Esprit et est en train d'asservir les gens qui aujourd'hui sont dans les liens du monde tout en croyant être dans le royaume de Dieu. Et tu as connaissance de ça en tant qu'enfant de Dieu, en tant que disciple de Christ. Tu ne peux pas te taire. Tu dois dire aux gens cette chose-là, examinez les Écritures. Si ce qu'on vous dit contredit les Écritures, cette chose ne vient pas de Dieu. N'en déplaise à qui que ce soit. Nous prenons des coups, mais on va continuer à en parler parce que c'est notre responsabilité.
Tout le monde m'abandonne car je suis à toi. Chaque fruit m'accompagne. Ô Seigneur, soutiens-moi. Je n'ai personne sur la terre qui puisse me soutenir. Sur toi seul, j'ai ma regard. Ô Seigneur, soutiens-moi. Comme un esclave, je veux être entre tes mains. Souffrir dans ton service, c'est mon désir et ma joie.
Nous étions en train de repasser la chanson. Je relisais les paroles de ce chant et la question suivante me vient à l'esprit, l'autre Laurent. Quelle solution Daniel préconise-t-il pour vaincre cet abandon qu'il vit? Qu'est-ce qu'il préconise?
Là, dans le quand on prend la chanson. Il a d'abord expliqué ce qui lui arrive et la solution qu'il a proposée ou bien qu'il a trouvée pour lui-même, c'est le fait qu'il ait fixé son regard sur le Seigneur. D'accord? Parce que tous m'ont abandonné.
Oui.
Il a fixé son regard sur le Seigneur et continue dans le ministère. D'accord? Il dit sur toi seul, j'ai mes regards. Sur toi seul, j'ai mes regards. Donc il fixe son regard sur le Seigneur. Il se sent abandonné, mais il est sûr que le Seigneur ne l'a pas abandonné. D'accord? Et il dit, comme un esclave, je veux être entre tes mains. Donc là, il se met dans la posture du disciple. Le disciple de Christ est un esclave de Christ. D'accord? Le disciple de Christ est un esclave de Christ. Si on va prendre là un peu partout dans les Écritures, d'abord par rapport à notre foi. Lorsque nous sommes abandonnés des hommes, à cause de notre foi en Christ, l'apôtre Paul, dans son ministère, disait aux gens, tout ce qu'il faisait, c'est que la foi des Corinthiens soit basée sur la puissance de Dieu. D'accord? Parce que il est très facile pour un disciple, un nouveau converti, de faire confiance à un serviteur de Dieu. Et sans s'en rendre compte, d'oublier même le Seigneur. comme le serviteur de Dieu ou la servante de Dieu est une personne humaine, lorsque ces moments de faiblesse deviendront manifestes, là il va dire, ah, donc c'est un faux. D'accord? Là, je vais lire 1 Corinthiens chapitre 2, verset 3. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Ça, c'est Paul qui est en train de parler. Il y a plein de gens aujourd'hui, à cause de leur position élevée au sein de la société, au sein des corporations chrétiennes, veulent donner l'impression qu'ils sont des gens à qui ces choses n'arrivent pas. Ils ne leur arrivent pas de se trouver dans un état de faiblesse, de crainte et de tremblement. Non, ils veulent présenter l'image d'un homme
invulnérable.
Invulnérable. D'accord, un surhomme. Les Anglais diront Superman. Donc là, Paul leur dit voilà ma situation quand j'étais venu. Et pendant qu'il était dans cette situation, il pouvait plus dépendre de ses prouesses naturelles d'art oratoire et tout le reste. Et il dit. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse. Parce qu'à cette époque-là, si tu dois prendre la parole en public, tu dois avoir été à l'école des philosophes et tout le reste pour savoir comment maintenir en haleine ton auditoire et tout le reste. Là, quand il s'agit de la prédication, ce n'est pas une question d'art oratoire. Et il dit, mais c'est une démonstration d'esprit et de puissance. Si on doit étudier ce test-là, vous comprenez que chaque fois que, en tant que disciple, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes à nos extrémités, nous donnons l'occasion à l'Esprit de Dieu d'agir. Il y a plein de gens aujourd'hui que Dieu ne peut pas utiliser parce que ils sont naturellement trop forts. Ils ne se soumettent pas. Ils ne se laissent pas.
Ils comptent sur eux-mêmes.
Donc l'Esprit ne fera rien du tout. Mais si tu lui dis là, Seigneur, sans te mentir, si dans cette affaire, si tu n'interviens pas là, moi-même là, je suis rien. Si tu lui dis ça, tu peux ne pas le dire publiquement, mais tu règles ça avec lui avant de venir. Qu'est-ce que tu veux que je dise à ton peuple? Ah, si tu ne dis rien, j'irai dire des choses qui ne viendraient pas de toi. Et là, tu confesses que sans Christ, tu n'es rien et tu n'as rien. D'accord? Donc ici, elle dit, afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, c'était le piège dans lequel étaient tombés quelques Corinthiens, quand lui dit, moi je suis d'Apollos. Parce que Apollos, là, quand il commence pas à expliquer les Écritures, l'autre dit, non, moi je suis de Paul. Et ils ont
divisé l'Église.
Voilà, donc, la foi. Quand on nous abandonne, il faut que notre foi soit fondée sur la parole de Dieu, sur la puissance de Dieu. Deuxième chose, notre vie elle-même là, la vie là que nous menons, nous devons la confier au Seigneur. Pourquoi? Parce que celui qui veut se défendre ne trouvera plus le Seigneur pour le défendre. Ça c'est le processus du dépouillement et du brisement. D'accord? C'est un enseignement tout à part, mais biblique. Et là, 2 Corinthiens chapitre 1 verset 8, nous ne voulons pas... En effet, vous laissez ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés, au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Et nous regardions comme certains notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes. Tu vois, ça revient encore. Ne pas placer notre confiance en nous-mêmes. Frères, sœurs, si tu appartiens à Christ, ne t'avise pas de placer ta confiance en toi-même. Si tu le fais, l'Esprit ne peut plus t'aider. Si tu le fais, le Seigneur ne pourra rien pour toi. Il dit, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. Ça veut dire que c'est dit, ok, si on devait mourir, d'accord, on va mourir, mais nous avons cette assurance qu'il va nous ressusciter. C'est lui qui nous a délivrés, qui nous délivrera d'une telle mort, lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. Voilà quelqu'un qui était entièrement soumis au Seigneur. Lorsque nous sommes abandonnés, il est naturel pour l'homme de vouloir avoir de la compagnie. Mais lorsque nous sommes abandonnés, nous devons apprendre à rester focalisés sur le Seigneur et à lui confier même notre sort. Parfois, nous lui confions notre sort, mais nous voulons nous gérer nous-mêmes. D'accord? Et là, on a des problèmes. Maintenant, nous devons dépendre de la grâce de Dieu. Là, je ne vais pas lire tout le passage de 2 Corinthiens 12 où l'apôtre Paul, à un moment donné de sa vie, a dû aller vers Dieu parce qu'il y a une situation tenace dans sa vie. Et il a prié. Pourquoi? Parce qu'il avait reçu tellement de révélations que, naturellement, si on le laisse comme ça, il va être gonflé. Et Dieu, dans sa sagesse, a placé une échelle dans son corps.
Il a prié. Non, il a prié. Non. Et finalement, il est allé vers... Mais qu'est-ce qui se... Et Dieu lui dit, ma grâce te suffit. Maintenant, c'est à partir de ça qu'il a eu ce que nous appelons l'intelligence spirituelle. Vous savez, la connaissance sur le plan spirituel n'est pas une connaissance apprise, comme on apprend à l'école. C'est une connaissance révélée. L'intelligence spirituelle, maintenant, c'est après ça qu'il a pu écrire, maintenant, pour dire, c'est à cause de ces révélations que j'ai reçues, et Dieu, ne voulant pas que je devienne orgueilleux, a placé cette charge-là dans ma vie. Maintenant, quelle est sa conclusion? Il dit, ah, si tel est le cas, si Dieu plaçait une charge dans ma vie, d'accord, donc maintenant je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est une grande découverte qu'il avait faite. C'est ce qui avait manqué à Pierre, et c'est ce qui a fait sa chute avant qu'il ne revienne plus tard. Parce qu'il comptait trop sur lui-même. Chaque fois que Jésus pose une question, il était le premier à dire, il y a ceci. Donc, il ne se mettait pas dans la posture d'une créature de Dieu. Dieu, dans sa sagesse, nous a créés comme des êtres dépendants de lui. Le jour où nous prenons de l'indépendance, c'est pour notre chute. C'est ce qui est arrivé à Adam et son épouse.
Oui. C'est vraiment dangereux.
Ah, bien sûr.
Oui.
Bien sûr.
Tout à l'heure, en donnant l'exemple de Paul,
ouais,
qui disait, qui se plaisait dans les faiblesses, là, il faut mettre, attirer l'attention des auditeurs.
Oh oui, quand on parle de faiblesse ici, on ne veut pas parler de péché.
Pas le péché.
Non.
Bon, comme le péché, là, c'est ma faiblesse, là, bon...
Mais vous savez, je chasse les démons, je fais ceci, les femmes, c'est ma faiblesse.
Il ne faut pas
venir nous raconter
c'est
ça. Si tu fais ça, tu es un pécheur, tu n'es même pas encore... Ou tu étais une fois converti, tu as rétrogradé.
Okay.
Les faiblesses dont il parle ici n'ont rien à voir
avec le péché.
Le péché.
D'accord. Mm-hmm. Donc, c'est tout à fait autre chose.
Oui, bien sûr.
C'est clair. Mm. Là, c'est bon, la précision est faite. On repasse à la chanson « Tout le monde m'abandonne
okay. »
qu'on écoute avec Daniel Cambo.
M'abandonne car je suis à toi. Chaque fruit m'accompagne. Ô Seigneur, soutiens-moi. Je n'ai personne sur la terre qui puisse me soutenir. Sur toi seul j'ai ma regarde, ô Seigneur, soutiens-moi. Comme un esclave, je veux être entre tes mains, souffrir dans ton service, c'est mon désir et ma joie.
Tu nous as parlé tout à l'heure de la solution qui a été préconisée par Daniel pour vaincre cet abandon-là.
Mm-hmm.
C'est vrai qu'il a dit quelque part, je n'ai personne sur la terre qui puisse me soutenir.
Mm-hmm.
Et il a dit, sur toi seul j'ai mes regards, ô Seigneur soutiens-moi. Et maintenant, au-delà, en dehors de cette solution, je constate dans la chanson que Daniel, j'ai l'impression qu'il a renouvelé son engagement au Seigneur. Mm-hmm. Alors, pourquoi ne se laisse-t-il pas au découragement et choisit-il de se livrer davantage au Seigneur?
Bien, là, tout à l'heure, dans l'explication, en réponse à la question que tu avais posée tantôt, je parlais d'esclave. Hein. Je disais qu'un esclave n'a pas de volonté. D'accord? Et l'esclave se conforme à la volonté révélée de son maître. La volonté révélée de son maître, c'est quoi? Ce sont les instructions de son maître. C'est la parole de son maître. Pour nous aussi, aujourd'hui, en tant que chrétiens, nous sommes esclaves de Christ. Dans les épîtres de Paul, vous allez l'entendre dire chaque fois, Paul, esclave de Christ. C'est vrai que dans les versions françaises, surtout le second,
on parle de serviteur.
Vous verrez serviteur. Mais quand vous prenez une version comme la Darby, qui a une approche littérale de la traduction, vous allez voir, il m'a dit esclave. Esclave de Christ. Mm. Et donc, en tant qu'esclave de Christ, nous avons la responsabilité d'obéir à la parole de Christ. D'accord?
Oui.
Mais de nos jours, il y a des gens qui se comportent comme s'ils sont des égaux du Seigneur. Comme s'ils sont égaux au Seigneur. Pourquoi? Parce que quand vous avez le même grade que quelqu'un, vous parlez en collègue. N'est-ce pas? Hein? Quand les chefs d'État se retrouvent, ils sont tous chefs d'État. Et ils discutent en tant que chef d'État. Quand des ministres se retrouvent, ils vont discuter en tant que ministre.
Hmm.
D'accord? Maintenant, dans le cas de Christ, lui là, c'est le Seigneur. Et nous, nous sommes ses esclaves. Ça veut dire que nous n'avons pas à discuter ses ordres. C'est le principe qui gouverne le royaume de Dieu. Lorsque Dieu donne des instructions, il n'y a pas un seul ange qui va lui demander, mais pourquoi tu dis ça? Qui va remettre en cause
la décision.
Non. Non. Donc si la volonté de Dieu doit être faite sur la terre, comme elle se fait au ciel là. Au ciel, les anges adorent Dieu. Adore celui qui est assis sur le trône, adore l'agneau. Mais lorsque celui qui est assis sur le trône parle, quand il appelle un parmi ses anges et lui donne une instruction, l'ange ne veut pas lui dire, ah, tu sais, c'est la dernière fois, la terre même là est dans les ténèbres. Et ces gens-là sont sales, ils sont souillés. Et la dernière fois, j'ai été, je suis revenu. Pourquoi c'est moi que tu envoies chaque fois? Hein? Gabriel n'a pas dit, Seigneur, je suis un archange. Et tu m'envoies dans un village, c'est une jeune fille. Hein? Village là, les gens ne sont pas émancipés. Je peux aller dans le temple. Hein? J'ai été dans le temple, j'ai rencontré Zacharie, je lui ai livré le message. Mais envoie un ange de...
Moins que moi.
Tu vois, non. Aujourd'hui, il y a des gens qui pensent qu'ils sont parvenus à un point où ils peuvent se permettre de contredire la parole de Dieu. Ils peuvent se permettre de refuser de faire ce que le Seigneur dit. Il y en a même qui vont jusqu'à remettre en cause la parole de Dieu. D'accord? Donc, là, ces gens-là ne peuvent pas respecter la parole de Dieu, ne se soumettent pas à la parole, surtout lorsque la parole de Dieu les met mal à l'aise. Parce que dans Hébreux 4, 12, il nous a dit que cette parole-là, c'est une épée. Elle juge les sentiments de nos cœurs. Lorsque un verset les trouble, ils vont trouver des arguments pour ne pas aller en profondeur, pour ne pas croire que Dieu est en train de leur parler à travers ce verset. Non. Donc, c'est pour cela que des gens se complaisent dans la mondanité, ça ne les dérange pas, ils disent non, tout le monde le fait, donc c'est tout à fait normal de le faire. Ils ne trouvent pas que c'est scandaleux, mais tu vois, donc, là, quand je parlais d'esclaves, dans le psaume 123, le psalmiste a dit quelque chose. Voici, comme les yeux des serviteurs, les yeux des esclaves sont fixés sur la main de leur maître, et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse, ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu. Tu vois un peu? Ça veut dire quoi? Aussi longtemps qu'il n'a rien dit, nous ne ferons rien. Et aujourd'hui, il a déjà parlé. Et il a consigné sa parole par écrit. Donc quand je lis un verset de la Bible, c'est Dieu qui est en train de me parler. Et quand il me parle à travers ce verset, il me dit d'obéir. Il ne me dit pas de faire un débat avec sa parole. Non. Il me dit d'obéir à sa parole. Et ces gens-là se mettent dans la posture d'esclave. L'esclave ne bouge pas aussi longtemps que le maître n'a pas parlé. Ou ne lui a pas fait un signe. C'est ce que le psalmiste est en train de dire. Et là, l'auteur est en train de dire, il se place dans la posture d'un esclave et il est prêt à souffrir dans le service
dit Seigneur. Aujourd'hui, le ministère, pour certains, un moyen de se faire de l'argent. D'accord? Et quand tu lis le Nouveau Testament, il n'y a pas cet état d'esprit-là dans le Nouveau Testament. Et quand on en parle, et ça enquiquine les gens, mais nous avons la responsabilité d'en parler. Jésus ne nous a pas sauvés pour que nous venions nous servir de lui. Non, il nous a sauvés pour que nous le servions. Et dans le service auquel il nous a appelés, il peut de lui-même, dans sa souveraineté, mettre à notre disposition de quoi nous faciliter la tâche. Point barre. Jésus n'a dit nulle part dans le Nouveau Testament, lorsque vous allez recevoir l'Esprit, lorsque vous serez mes témoins, tu n'étais rien avant, tu vas devenir milliardaire. Lisez le Nouveau Testament, vous n'allez pas avoir cet Esprit. Il nous a même appelés aux martyrs. Tu vois, ces choses ne sont pas enseignées aujourd'hui. Donc, là, souffrir joyeusement en servant le Seigneur. C'est ce que les apôtres ont fait. Actes chapitre 5, verset 41, les apôtres se retiraient de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Christ. Actes chapitre 15, verset 25, nous avons jugé à propos, après nous être réunis tous ensemble, de choisir des délégués et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul. Ces hommes qui ont exposé leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu vois comment donc si on devait parler de CV, le CV de Paul et Barnabas, c'est des hommes qui ont exposé leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, les gens, plutôt, ils se servent des disciples de Christ, des enfants de Dieu, pour s'enrichir. Et c'est scandaleux. Actes chapitre 21, alors Paul répondit, « Que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur ? Je suis prêt non seulement à être lié en tant qu'apôtre, à être menotté, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. » Dans les pays communistes, les disciples de là-bas sont prêts à dire ça. Mais dans les pays libres, là, comme on les appelle, rares sont ceux qui pourront, en défendant la cause de Christ, de dire, oui, advienne que pourra. Si en défendant le Seigneur, on doit me livrer à la mort, je suis prêt. Rares sont ceux qui pourront dire ça. D'accord? C'est pour cela que notre niveau de chrétienté, notre niveau de sanctification, de sainteté, de piété, laisse à désirer. Parce que quelque part, quelqu'un en tant que disciple de Christ a manqué de dire aux nouveaux convertis pourquoi ils sont convertis. On leur a fait dire, on leur a fait croire autre chose. C'est pourquoi aujourd'hui ils ne comprennent pas. Quand les gens sont en proie à l'adversité, ils s'en prennent à Dieu. Certains même, quand ils n'arrivent pas à faire la différence entre une attaque démoniaque et une épreuve. Pourquoi? Parce qu'on leur dit chaque fois qu'il y a quelque chose de contraire, ça vient du diable. Et il lutte. Et il chasse. Peut-être dans ce cas de figure, il n'y a pas un démon à chasser. C'est une épreuve. Maintenant, il faut avoir été instruit dans la parole de Dieu pour pouvoir distinguer une épreuve d'une attaque. Quand l'attaque vient, tu ne laisses pas une seconde là. Tu dois combattre et repousser ces choses-là. Mais dans l'épreuve, tes gesticulations ne feront que rendre ta situation difficile. D'accord? Donc, c'est ça les tares. Ce sont là les tares du christianisme du 21e siècle.
Très bien. La chanson se termine avec des paroles d'encouragement, si je peux l'appeler ainsi.
Ouais.
Et il dit, oui, si tu es incompris dans ce monde, sache que le Seigneur est celui qui te comprend. Même si dans ta faiblesse tu ne comprends pas, sache qu'il est mort pour toi. Sache qu'il n'y a pas de faiblesse qui ne peut vaincre pour toi. Sache qu'il n'y a pas de péché qui ne peut pardonner. Si vraiment tu t'approches de lui et tu lui demandes pardon, sache qu'il est là et qu'il te soutient. Il te soutiendra. Il a commencé à te soutenir. Il te soutiendra jusqu'à la fin de ta vie. Gloire à Jésus. Alléluia. Ce sont là les paroles d'encouragement que qu'a donné le bien-aimé frère, le pasteur Daniel Cambou. Alors, quel est ton avis par rapport à ce qu'il a dit?
Alors là, dans tout ce qui est dit, si je dois résumer tout ceci, c'est que le chrétien, le pécheur converti, devient la demeure de Dieu. C'est-à-dire que Dieu l'habite. Dieu habite en lui. D'accord? Parce que si nous ne comprenons pas ça, nous chercherons à avoir le secours de l'extérieur.
Ouais.
D'accord? Mais avant d'aller plus loin, je vais m'attarder sur l'aspect de sache qu'il n'y a pas de péché qui ne peut pardonner. Si vraiment tu t'approches de lui et tu lui demandes pardon. Là, l'auteur est en train de dire, aussi longtemps que nous sommes sur terre, il est possible de tomber dans le péché. D'accord? Parce que l'apôtre Jean dit, celui qui pêche est du diable. Ça, c'est dans les Écritures. D'accord? Mais il dit, celui qui est né de Dieu, il ne pratique pas le péché. Il y a des gens aujourd'hui qui, influencés par l'évangile, la théologie libérale vont dire non, c'est normal pour un homme de péché. Non, c'est normal pour un homme qui appartient à l'ancienne création de péché. Mais c'est anormal pour quelqu'un qui a été sauvé, libéré par Christ, de se livrer au péché. D'accord? Ce n'est pas de l'humilité quand tu dis, nous sommes tous des pécheurs. Il faut arrêter ça. Parce que tu es en train de remettre en cause ce que Christ a dit. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Mais il est possible et probable, si nous ne veillons pas, de tomber. Parce que le péché, c'est la conséquence de notre soumission à la tentation. Christ a été plusieurs fois tenté, mais il n'a jamais péché. D'accord? Donc il était sur ses gardes. D'accord? Donc, là, cette partie-là, donc, si vraiment tu t'approches de lui, donc, la personne qui se trouve dans cette situation doit retourner au Seigneur pour obtenir pardon et puis purification. Maintenant, je parle de demeure parce que, tu vois, quand le Seigneur a dit dans Jean 14, verset 21, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Ça veut dire quoi? Je vais me révéler à lui. Jude, l'un des apôtres, et le texte précise bien Jude et non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où viens-tu que tu te feras connaître à nous et non au monde? Et Jésus répond en disant, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, mon Père l'aimera, nous, Père, Fils, bien entendu, l'Esprit, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Donc, le chrétien est la demeure de Dieu. Alors, s'il est la demeure de Dieu, là, on peut comprendre pourquoi Jésus dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il revient vivre dans les disciples par le Saint-Esprit. D'accord? Donc là, avec tout ce que l'auteur est en train de dire comme parole d'encouragement, nous comprenons que, étant enfant de Dieu, le Seigneur demeure en nous. Quand ça ne va pas, il faut lui en parler. Quand tu es en proie à une situation qui te dépasse, il faut lui en parler. Notre réflexe naturel, c'est d'appeler les gens de la famille, d'appeler tel, de se plaindre. Non. Quand tu pleurniches, ça, c'est pas de la spiritualité. Mais une situation peut t'amener à pleurer devant Dieu. Ça, c'est autre chose. Pleurnicher, s'apitoyer sur son sort, ça, c'est faire preuve d'incrédulité. Mais on peut pleurer en raison de la situation que l'on traverse. Donc, il y a une différence entre pleurer et pleurnicher. D'accord? Parler à Dieu, exposer son cas à Dieu et s'apitoyer sur son sort. Parce que souvent, quand on s'apitoie sur son sort, on ne le dit pas directement, mais on est en train de dire que Dieu n'est pas fidèle. Il m'a abandonné. Il m'a laissé. Voilà comment il me traite. Non. D'accord. Donc, revenons à la parole. C'est dans la parole que nous puisons notre réconfort. C'est pour cela que l'auteur retourne à la parole. En disant tout ce qu'il est en train de dire, quand il n'y a pas de faiblesse, tout et tout, pour que tu saches qui tu es. Ne perds pas de vue ton identité en Christ. Si tu le sais, tu sais que l'Esprit de Dieu réside en toi. Toute la communication se fait à partir de là.
Très bien. Voilà. Merci, frère Laurent, pour cet éclaircissement. Merci également à vous qui nous avez suivis depuis le début de l'émission. Soyez bénis et restez toujours branchés aux différents programmes de cette station évangélique. Au revoir et à dimanche prochain si le Seigneur tarde à revenir. Je vous laisse avec la chanson « Tout m'abandonne » de Daniel Kambou. Bye bye.
M'abandonne car je suis à toi. Chaque fruit m'accompagne. Ô Seigneur, soutiens-moi. Je n'ai personne sur la terre qui puisse me soutenir. Sur toi,
j'aime à regarder.